Avec ce soir l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, c'est ministre de l'Environnement et de l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Je disais, on va lier canicule et politique parce que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a estimé qu'aujourd'hui, certes, l'État doit intervenir, regarder ce qui se passe, faire attention aux Français, mais que l'État ne peut pas tout, ce qui rappelle d'ailleurs la phrase d'un ancien Premier ministre. À peu près la même chose, mais cette fois-ci à propos de l'économie.
C'est au préfet, au maire, de regarder la situation au plus près du terrain. Moi, je crois à cela. De même, pardon, mais je ne cesse de le dire, arrêtons de tout demander à l'État. L'État doit prendre ses responsabilités, il se mobilise. Mais on est une société, on est une communauté nationale. Je veux rappeler que la responsabilité, c'est important. Il faut prendre soin les uns des autres. Quand on a des amis, de la famille, des proches, qu'on sait parfois isolés, qu'on sait vulnérables, on prend soin d'eux aussi.
Bruno
c'est
Retailleau.
Le message que je veux donner.
Je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi que se mobilise à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise.
À l'époque, Lionel Jospin évoquait le licenciement chez Michelin. Voilà. Alain Duhamel, l'État, il ne faut pas tout demander de l'État, tout attendre de l'État.
En disant ça, c'est-à-dire en voulant être honnête, intellectuellement, il avait pris une bordée d'injures venant de partout. Mais moi, je crois que leur thème... Qui est cousin, en l'occurrence, je crois que leur thème n'est pas faux. C'est-à-dire, bien sûr que l'État a ses responsabilités, ce serait idiot de dire le contraire. Alors, l'État, il est censé avoir préparé des législations, il est censé avoir préparé des mesures, il est censé avoir débloqué des crédits pour des équipements, il est censé avoir... Un État qui fonctionne, c'est un État qui est capable d'anticipation. Je ne suis pas en train de dire de prévoir que dans 3 mois et 2 jours, il y aura justement tel ou tel incendie ou je ne sais pas quoi, mais qui se prépare au pire. Donc, ça fait partie du rôle de l'État. C'est ce qui n'avait pas marché en 2003. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas de conséquences aussi dramatiques qu'à l'époque où il y avait eu 12 000 personnes qui étaient mortes.
15 000.
Bon, alors a fortiori. L'État... Il a ses responsabilités, mais c'est vrai que chacun a ses responsabilités. C'est vrai que les collectivités locales ont leurs responsabilités, que s'il s'agit des services départementaux, des pompiers, etc., ça dépend aussi d'un département, ou s'il s'agit d'un équipement scolaire, par exemple, dans les écoles primaires, une municipalité aussi a ses responsabilités. Et puis, c'est vrai que toute la société a ses responsabilités. Par exemple... On en parle davantage, je remarque maintenant qu'on ne le faisait avant, et les chefs d'entreprise ont leurs responsabilités. Il faut que dans une entreprise, il y ait des garanties. Enfin, on voit très bien qu'il y a toute une série de travailleurs pour qui une canicule de ce genre, c'est réellement insoutenable.
Les Français, si on a des personnes âgées dans sa famille, mais peut aussi s'en occuper.
Je suis assez bien placé pour voir ce que sont les effets sur les personnes âgées, comme vous me le suggérez intelligemment. Mais le fait est que la capacité d'adaptation aux circonstances extérieures diminue avec l'âge. C'est pas la peine de dire le contraire. Donc, je pense que chacun a sa part de responsabilité, étant entendu qu'on est en France et que, bien sûr, là, l'État a plus de responsabilités que les autres.
Non, mais... D'accord avec la phrase de Bruno Retailleau.
Alors, l'État ne peut pas tout, ça, c'est, pourquoi pas. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est que l'État recule. L'État recule sur tout. Et là, on a l'impression que c'est juste un phénomène d'urgence climatique limité dans le temps. Mais non, l'État a reculé. Il y a 3 niveaux d'action là par rapport à ce que l'on vit. Il y a la sécurité au quotidien, c'est-à-dire les urgences. L'État a reculé sur les services d'urgence et sur les pompiers. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps qu'il manifestait. Donc, il a reculé sur l'urgence. L'État a reculé sur les politiques climatiques. Ça, c'est vraiment scandaleux. Vous voyez, moi, personnellement, je découvre, en vous regardant les reportages, que la totalité des écoles ne sont pas aujourd'hui isolées.
Oui.
Pourquoi ça me scandalise? Parce que, lors de l'accord de Paris sur le climat, qui a été un grand moment d'unité nationale, un grand moment de réconciliation même mondiale, parce que COP21, ça voulait dire qu'on négociait depuis 20 ans cet accord sur le climat. Et à ce moment-là, nous avons mis en place des actions opérationnelles, et en particulier destinées aux collectivités locales, avec les territoires à énergie positive. Et dans ce dispositif-là, il y avait une priorité sur le travail d'isolation, sur les écoles, sur le changement des méthodes de chauffage moins consommateurs d'énergie, etc. Et dans l'accord de Paris sur le climat, il y a 70 coalitions d'action très opérationnelles qui suffiraient de continuer. Or, ce que je découvre, c'est que le gouvernement a annuler ces dispositifs. Aujourd'hui, 10 ans après la COP, si tout cela avait été continué au-delà des clivages politiques... Mais non, il faut beaucoup d'argent.
Bah pour rénover des écoles, il faut quand même beaucoup d'argent, par exemple.
Mais pas du tout. Ah bah. Mais pas du tout. Bien sûr, il y a une aide initiale, mais ça rapporte. L'intérêt de l'investissement dans la croissance verte, c'est que ça rapporte, ça crée des emplois non délocalisables. On avait créé des filières du bâtiment qui s'étaient formées, des filières de construction des bâtiments d'isolation, etc. Et ils ont également supprimé, je termine par là, par les baisses d'impôts qu'on avait donné, le crédit d'impôt qu'on avait donné aux particuliers pour faire les travaux d'isolation dans leur logement. Et ça, c'est pas bien d'avoir fait ça.
Alors moi, je vous rends un point sur le fait que par rapport effectivement à l'époque des accords de Paris où on avait pris des engagements et surtout où la France était pionnière.
Mais
là, c'est pas de la petite gloriole nationaliste, c'était la réalité. La France était pionnière et que là, on est rentré dans le rang. Et c'est un recul. Et alors, la façon dont toute une série de votes viennent récemment d'avoir eu lieu qui reviennent sur des engagements qu'on avait et qui, en fait, démantèlent les efforts qui ont été faits en faveur de l'environnement, donc de la lutte contre le réchauffement climatique directement. Ça, je trouve, dans une période comme celle qu'on vit, on vit depuis 2 semaines, dans cette période dont on voit les effets depuis des années et des années, là, je trouve que c'est totalement irresponsable. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est pas une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité d'un certain nombre de politiques qui, dans un cas comme ça, disent pour faire plaire, dans ce cas-là, à certains agriculteurs, pour faire plaire à d'autres, au BTP, etc., organisent. Et méthodiquement des reculs par rapport au réchauffement climatique.
Oui, mais regardez.
Et ça, c'est aberrant.
Vous parliez des écoles. Les écoles, tout à l'heure, on a évoqué les transports publics.
Les transports publics.
C'est-à-dire le quotidien des Français aujourd'hui n'a pas été amélioré alors qu'on sait.
Enfin, il y a des domaines quand même.
Non, mais le quotidien, je parle. Écoles,
les bus,
c'est le quotidien. Les trams, c'est le quotidien. Le métro, c'est le quotidien.
Je vais vous donner 2 exemples.
Moi, je prends un seul.
Oui, allez-y.
Je prends un exemple. Je me rappelle très bien ce que, il y a 20 ans, étaient des cars qui faisaient des longs trajets et je vois ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. Bah, évidemment, il y a eu des efforts qui ont été faits.
Bien sûr. Oui. Là, je parlais des transports du quotidien.
Oui, oui.
C'est-à-dire le RER, le métro.
Vous avez d'autres exemples?
Le poids des lobbies dans le bâtiment, alors que les entreprises de proximité, vous voyez, quand une petite commune rénove son école, elle crée des emplois localement. Donc, les artisans, ils s'étaient engagés à fond. Puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Pour vous donner 2 exemples. Par exemple, on avait imposé dans la loi l'obligation de mesurer individuellement les frais de chauffage. Parce qu'on s'était rendu compte que dans les copropriétés, si vous payez ce que vous consommez, du jour au lendemain, il y avait 70% d'économie. Ça a été supprimé parce que ça gênait les promoteurs. 2e exemple, on avait décidé que tous les nouveaux bâtiments seraient construits à énergie positive, c'est-à-dire produiraient plus d'énergie par le renouvelable, les installations de panneaux photovoltaïques, etc., les façades, la récupération de la chaleur, plus d'énergie qu'ils n'en consomment. C'était extraordinaire. Ça aurait pu permettre le développement de filières du bâtiment les plus performantes d'Europe, voire du monde. Et tout a été arrêté. Tout a été arrêté en espèce d'inertie, de suspicion
recul,
sur le climat.
Et de recul face au lobby, alors.
Et de recul, oui, et puis de mollesse politique. Parce qu'il faut tenir sur la distance, vous voyez, les opérateurs économiques, les ONG, les collectivités locales. C'est un travail collectif, tout ça. Alors, donc, si les règles changent tout le temps, ça décourage les gens. Et je vais vous dire une chose. Quand on veut faire quelque chose, on trouve un moyen. Quand on ne veut rien faire, on trouve une excuse. Eh ben c'est ça qu'on vient d'entendre. On trouve une excuse. Oh ben ça va pas durer longtemps, etc. Mais si, c'est le réchauffement climatique.
Mais puisque vous parlez de mollesse politique, ça nous emmène sur la deuxième partie de la discussion, si vous le permettez. Et c'est à l'Assemblée nationale que ça va se passer. C'est la motion de censure contre François Bayrou, qui n'a aucune chance de passer, bien évidemment. Enfin, on va déjà prendre le pouls du Palais Bourbon avec Edgar Becquet, qui est sur place pour BFM TV.
Oui Alain, a priori François Bayrou ne devrait pas tomber, il devrait pouvoir rentrer à Matignon sans problème ce soir. Certes, le NFP va voter pour, mais pas le RN. Marine Le Pen l'a d'ailleurs rappelé ce matin à notre micro, au micro d'Hugo Capelli et de Marjorie Marcillac. Aujourd'hui, la censure, c'est zéro bénéfice pour les Français. La chef de file de la députée RN qui préfère mettre la pression sur François Bayrou autour de son budget qui sera examiné à l'automne prochain. juin, même s'il faut rester prudent, très prudent même. Un membre important du gouvernement me confiait hier, je me méfie toujours du RN, ils sont capables de tout. On l'a bien vu en décembre, résultat aux alentours de 20h, 20h30.
Edgar Becquet, donc en direct de l'Assemblée nationale pour BFM TV avec Thierry Bouillet.
On a vu hier que le RN avait surpris tout le monde en votant contre la loi sur la réforme de l'audiovisuel. On pourrait avoir une énorme surprise et tout d'un coup le Rassemblement national qui vote cette motion de censure, même si Marine Le Pen l'a rappelé qu'il ne censurait pas.
On ne peut jamais exclure une manœuvre de dernière minute. Et le Rassemblement national, c'est une grande différence par rapport à il y a 10 ans, c'est beaucoup mieux joué, et puis en plus ils sont plus en force qu'avant, mais c'est très bien joué de la procédure, hein, comme tout le monde, mais ils ont vraiment appris.
Ils ont appris.
Bon, en l'occurrence, ça serait quand même Marine Le Pen qui s'auto-démentirait dans un cas comme ça, oui. Ça paraît quand même très gros.
Donc ça sert à rien ce qui se passe.
Oui, mais non, mais si, parce qu'il y a une nouvelle réalité, c'est que François Bayrou a essayé de passer, même si c'était de façon relativement informelle quand même, mais enfin, un accord de non-censure avec les socialistes. Les socialistes ont décidé, après l'épisode du conclave, chacun interprétera le résultat à sa manière, ils l'ont interprété, eux, en tout cas d'une manière
négative.
Certaine, voilà, ils ont considéré que cet accord n'existait plus. À partir du moment où les socialistes retirent leur accord de non-censure, ce qu'ils ont fait, bah, évidemment, François Bayrou se retrouve exactement comme Michel Barnier dans les mains du Rassemblement national. Faut pas nier ça. Mais la différence, c'est que puisque Marine Le Pen, de son point de vue, je pense qu'elle a raison d'ailleurs, puisque Marine Le Pen considère qu'il faut que l'épreuve de force réelle, si elle doit avoir lieu, se fasse à propos du budget, et qu'on sait que depuis le début de François Bayrou, la grande affaire, c'est est-ce que ça va vraiment être un choc ou bien est-ce que ça va être des rustines. Bon, donc effectivement, c'est un enjeu important pour tout le monde, pour les Français. Moi, je crois que ça va du coup pas être du tout si ça avait lieu, ça serait pas une censure d'enlisement comme celle qu'on a connue, ça serait plutôt une censure de confrontation. Je crois qu'il va y avoir un choc budgétaire qui va être proposé, mais
il
un
doit
vrai
être proposé
choc.
Autour du 15 juillet. Hein.
Oui, alors. Il va
les
être,
grandes lignes.
Voilà, les grandes lignes 15 juillet. Mais,
on monte pas en vacances,
ensuite,
on se retrouve à la rentrée.
Ensuite, fin septembre, début octobre, à ce moment-là, alors. Il y aura le détail. Et là, je pense qu'il y aura vraiment un choc, eh bien, où il sera accepté ou il ne sera pas accepté.
C'est
mais,
vrai.
Mais c'est, à ce moment-là, ça n'est pas un affaissement ou un enlisement, c'est une déflagration à laquelle on consent ou pas.
Est-ce que ça vous choque que François Bayrou dépende du Rassemblement national? Il va peut-être passer l'été à Matignon grâce à Marine Le Pen.
Oui, c'est choquant. Après tout son discours, parce que ce président et ce gouvernement, il est là parce qu'il y a eu un barrage contre le RN. Donc maintenant, dépendre du RN, c'est quand même très étrange. Ça, c'est la première observation. La seconde chose, c'est qu'est-ce que gouverner? Gouverner, c'est quand même avoir un minimum de popularité, surtout s'il faut faire avaler de mauvaises décisions.
Ah, c'est perdu.
Alors là, François Bayrou est quand même très, très impopulaire.
80%
pour trois raisons.
De...
D'abord, parce qu'il n'a pas dit la vérité sur des tarams devant la commission d'enquête. Ça, je crois que ça a beaucoup marqué les Français. Ensuite, parce qu'il a fait semblant dans le colloque sur le conclave, il a fait semblant. Il s'est allié avec le MEDEF pour que tout ça... Il a trahi la CFDT d'une certaine façon. Et là, manifestement, s'il est aussi bas dans les sondages, comment, aussi impopulaire, comment est-ce qu'il va faire avaler un budget? Et donc, la question de la censure, bien évidemment, elle se pose. C'est très étrange aussi de voir le RN soutenir un gouvernement en le critiquant tous les jours. Et par ailleurs, je pense qu'il peut y avoir une censure sans dissolution. Pourquoi on dit que c'est le cafarnaum? Mais non. Donc à ce moment-là, Emmanuel Macron...
Ça changera quoi, alors?
Quelqu'un d'un peu plus compétent, d'un peu plus populaire, qui n'a pas menti...
François Bayrou est incompétent.
Le conclave, il n'a pas réussi parce qu'il a fait semblant. Le budget, on ne sait pas trop. À l'heure où l'on parle...
Quelqu'un de gauche, peut-être, oui. À Matignon
Je pense qu'Emmanuel Macron, à cette heure-ci de la vie politique, ne nommera personne de gauche, mais peut-être quelqu'un d'autre dans son gouvernement ou ailleurs, ou un premier ministre technique, ou je ne sais pas, mais qui sera capable de faire un conclave moralement bien engagé, et pas en faisant semblant, qui n'aura pas ce boulet de betterame, et qui sera capable de présenter un budget. Moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas être si impopulaire en étant Premier ministre et en venant devant le Parlement avec le texte le plus politique, le plus important, qui est celui de la loi de finances.
Il y a mieux que François Bayrou, alors?
Alors, moi, je suis d'accord avec Ségolène Royal sur un point, c'est que moins on est populaire, plus c'est difficile de faire accepter ce qui serait effectivement un choc. Là, je ne vais pas dire le contraire, parce que c'est de bon sens. Sur le reste, sur Betaram, etc., je ne suis pas du tout d'accord.
Mais... À l'instant, François Bayrou vient de déclarer que l'intérêt général est plus fort que toutes les menaces de censure. Voilà ce que vient de dire le chef du gouvernement.
C'est-à-dire que la France est à un stade où, si, pour la deuxième année consécutive, on bloque devant le budget, il va y avoir inévitablement
donc une c'est crise, Bayrou ou le chaos
une crise de confiance. Il va y avoir une crise de confiance.
C'est Bayrou ou le chaos.
Mais quand je dis crise de confiance, c'est pas au niveau français, c'est au niveau international. Bon, et à ce moment-là, prendre le risque parce que ça n'est pas parce que les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire les rapports des forces étant fixés tant qu'il n'y a pas de dissolution. Ouais, ouais. Bon, ça n'est pas parce qu'on remplacerait François Bayrou par le Cornu, qui est quelqu'un de très estimable, etc. Ça ne changerait rien. Mais non.
Mais si, parce qu'il est grillé,
parce que
là.
Il serait minoritaire.
Ça nous fait mal.
Ça fait mal à la France, mais il est grillé, François Bayrou. Je préfère le Cornu, moi. Quelqu'un de neuf qui arriverait, qui n'aurait pas de plus, etc.
Vous avez tout à fait le droit de préférer le Cornu.
Non, parce qu'il vaut mieux réécrire une page.
Et moi, je n'ai rien contre lui. Mais ça ne changera pas au fait que le Premier ministre qui présentera le budget sera un Premier ministre en minorité à l'Assemblée.
Mais Ségolène Royal, encore faut-il qu'on comprenne la stratégie de la gauche, parce qu'un coup on soutient, un coup on ne soutient pas, et du Parti Socialiste en particulier, quoi, qui est un nouveau chef, la continuité du PS d'ailleurs.
Il est grillé aussi le PS ?
Et Olivier Faure ?
Non, j'espère que non, que le PS n'est pas grillé, mais là c'est cohérent ce que fait le groupe socialiste, puisqu'il n'a pas voté la censure, en contrepartie, tout le monde s'est moqué d'eux.
Tout le monde.
Non, c'est à un moment tout le monde va dire il demande un conclave.
Moi, je me rappelle dans les débats, là, je ne suis pas du tout.
Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis.
Oui, tout le monde.
Après, ils censurent, sachant qu'elle passera pas. C'est aussi hypocrite.
Mais vous savez, c'est aussi la confiance, les relations politiques. À partir du moment où l'engagement n'a pas été tenu et que ce conclave était pas honnête, si vous voulez, il a fait semblant. François, il a fait traîner le temps.
D'accord, mais le Parti Socialiste.
La CFDT, c'est quand même pas correct, parce que la CFDT a fait mouvement sur la question de l'âge, et puis au bout du compte, François Bayrou s'est entendu avec le MEDEF pour planter le dos. Mais si
non,
c'est ça, ça qui s'est passé
non,
en
ça,
coulisses.
Vraiment non.
C'est ça qui s'est passé en coulisses. Pourquoi le MEDEF
On peut dire non, ça pas du tout.
Ouais, mais je crois que si.
Non, mais moi je suis sûr
en
du
tout
contraire.
Cas, il y a eu un échec.
En tout cas, la CFDT en veut beaucoup au MEDEF.
Mais bien sûr, mais elle en veut au MEDEF et pas à Bayrou dans l'histoire. Non.
Ce gouvernement est proche du MEDEF.
Les trois syndicats qui ont participé au conclave, en sortant, ont tous les trois dit c'est la faute du MEDEF.
Ouais.
Et ça, je ne l'invente pas.
Du côté, pardon, on était sur le Parti Socialiste, est-ce qu'il faut qu'il change de tête ? Est-ce qu'il faut qu'il fasse des primaires dans la perspective de 2027, notamment, ou pas ?
Changer de tête, non, parce que...
Bon, là, il vient d'être reconduit.
Vous savez, il y a des règles...
Il a un premier secrétaire, il lui faudrait un leader, et ça n'est pas la même chose.
Justement, est-ce qu'il faut une primaire ?
D'accord.
Une primaire pour désigner la personne qui va porter les couleurs du PS et de la gauche, peut-être plus généralement, en 2027.
Bien sûr.
Et une primaire ouverte.
Bien sûr, tous les grands partis démocratiques font des primaires dans tous les pays du monde entier. Et quant à la précédente présidentielle, Anne Hidalgo était désignée sans primaire, on a vu le résultat. Parce qu'il faut une dynamique populaire. Et une primaire, ça peut déclencher une dynamique populaire.
Et vous iriez...
Vous pourriez être candidate à une primaire socialiste ?
Je suis pas mal sollicité par les gens qui me disent allez la présidentielle, est-ce que vous allez revenir, mais par rapport au déclin de la France, etc. Oui, pourquoi pas.
Une primaire.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Je dirais, par rapport à ce qui se passe en ce moment sur l'urgence climatique et l'ordre juste.
Il n'y a pas que des coups à prendre.
J'aurais été très honoré de débattre avec une candidate dans le cadre d'une primaire honnêtement organisée.
C'est le cas. Et nous souhaitons que tous les deux, que cette primaire soit correctement organisée, car c'est la condition.
Oui. Il n'y a pas que des coups à prendre.
La condition.
Non, il faut une vraie primaire.
C'est difficile. Une vraie primaire.
C'est quoi une vraie primaire ?
Primaire, c'est le respect. Le respect des personnes, le respect des idées, le respect des procédures, le respect des votes. C'est ça une vraie
Mais c'est
primaire.
Une primaire ouverte, c'est-à-dire à l'ensemble de la gauche ou uniquement au sein du Parti Socialiste ?
Le LFI a déjà dit qu'il ne
veut pas. Non, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas.
L'idéal, c'est.
Raphaël Glucksmann non plus n'en veut pas.
La question, c'est de savoir si c'est une primaire ouverte aux militants ou aux électeurs de gauche.
C'est ça.
Et
ou à moitié.
C'est mieux que ce soit les électeurs.
Et vous avez vos chances, vous pensez.
Il n'y a plus beaucoup d'électeurs, d'inscrits, vous voulez dire.
Non.
Il n'y a plus beaucoup de militants.
D'électeurs de gauche. Oui, les gens se déclarant électeurs de gauche.
Ségolène Royal, vous y allez.
Je pense.
Vous pensez, vous avez vos chances.
Je ne calcule pas en termes de chances.
Bah quand on se lance dans un combat, on...
Je pense que, si je peux être utile, je ne veux pas qu'on puisse dire, mais alors, il y a eu le désastre climatique, il y a eu le désordre, et finalement, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas vu. Donc oui, je pense, c'est modestement, puisque retourner à une primaire, c'est quand même... Vous voyez, je me sens
prendre un risque.
C'est prendre un risque, c'est avoir la capacité de défendre des idées, et je vous le dis, c'est l'ordre juste et l'urgence climatique.
Quelles seraient les chances de Ségolène Royal si... elle était candidate à cette primaire, alors ouverte,
alors,
on imagine, aux électeurs de gauche.
Je vais vous faire une réponse qui, malgré mes origines, n'est pas une réponse de Normand. On ne sait jamais comment s'achèvera une primaire et on a toujours des surprises. Et je me rappelle à propos de Ségolène Royal, qui m'a surpris.
Qui a participé à une primaire.
Qui a battu
Laurent Fabius à l'époque et Dominique Strauss-Kahn notamment.
Et Dominique Strauss-Kahn, que ça n'était pas écrit avant.
C'est ça.
Merci Alain Duhamel. Merci Ségolène. C'était votre dernier face à face avec Alain Duhamel.
Oui. J'étais ravie de débattre
avec
vous.
C'était réciproque.
Je voulais vous dire qu'on avait un point commun, qui est la passion pour la politique, la passion pour l'histoire des institutions et le respect pour le fonctionnement des institutions, tout en étant clairvoyant sur les hommes ou les femmes qui les incarnent. Et j'ai apporté deux de vos phrases avec lesquelles je suis entièrement d'accord, parce que vous avez de la vision des choses. D'abord, vous avez dit « La démocratie est un système qui fonctionne mal, mais c'est le moins mauvais de tous ». Et j'aime bien cette façon de pondérer les choses, c'est-à-dire ni de mettre la démocratie tout à fait en haut, mais de montrer qu'il faut la mériter à chaque fois. Et la seconde chose qui fait écho à ce que l'on vient de dire, la gauche est une famille politique qui a du mal à se mettre d'accord sur la définition de la famille. Bravo.
Merci Ségolène Royal pour tous ces débats.
Moi j'étais enchanté de débattre avec elle, d'ailleurs vous le savez bien, puisqu'il m'arrivait de piaffer en disant mais cette semaine est-ce que c'est elle?
Pourquoi Ségolène n'est pas là?
Merci Ségolène Royal. Merci. Et jeudi ce sera votre dernier face à Duhamel et ce sera avec François Bayrou, le Premier ministre. Qui sera là, on verra s'il est grillé d'ici là.
Pour reprendre l'expression de Ségolène Royal.
L'expression de Madame Royal.